VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest, Mali. La France a promis de tout faire de concert avec les autorités maliennes pour retrouver et libérer Sophie Petronet, une Française enlevée samedi à Gao, dans le nord malien. Médecin nutritionniste, Sophie Petronet s'est spécialisée dans l'assistance aux enfants mal nourris au sein de l'association Aide à Gao. Notre correspondant sur place, Boubacar Touré, revient sur ce rapt.
C'est devant la porte du centre d'accueil des enfants qu'elle a ouvert au quartier Sosokura en plein cœur de la ville que le chef de mission au Mali de l'ONG AAG, Association d'aide à Gao, Sophie Petronet, a été enlevée le samedi 24 décembre 2016 vers 17h par des hommes armés à bord d'une Land Cruiser. Aliou Bossou, témoin, nous raconte.
Ils sont venus rapidement et ils l'ont enlevé.
Ils étaient combien ?
Ils étaient trois. Ils sont de Tamashek, de couleur blanc. Ils ont pris juste le carré que vous voyez et ils ont monté en haut vers sur la route de Kidal.
L'enlèvement du docteur Sophie a été un coup dur pour les enfants du centre qui ne réclament que le retour de leur maman. Zainabou Walet Mohamed, pensionnaire du centre.
Comme ma mère, parce qu'elle nous aide de la rendre parce qu'on a besoin d'elle. C'est tout ce qu'on cherche.
Intervenant dans le domaine de l'humanitaire depuis plusieurs années à Gao, Sophie Petronet apporte assistance en nutrition à plusieurs enfants orphelins dont des nourrissons. Les populations de Gao très tristes invitent les autorités maliennes à agir vite pour retrouver la mère des orphelins.
Vraiment, ça me fait mal au cœur. Ça fait mal à toute la population de Gao.
Pour l'instant, cet enlèvement n'a pas été revendiqué. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
On passe maintenant à l'Afrique centrale, RDC. Des dizaines de civils tués ce week-end par des milices dans l'est du pays où les violences interethniques paraissent s'intensifier sur fond d'instabilité politique. Une milice de l'ethnie Nandé a tué au moins 13 civils tout dimanche à Nyanzale. Trois jours après la mort de 17 civils Nandé lors d'un raid d'une milice Hutu dans un village voisin. Et toujours en RDC, à Beni, à 300 km au nord de Nyanzale, le bilan des attaques lancées par des présumés rebelles ougandais ADF ce week-end a été revu à la hausse. Selon l'administrateur du territoire de Beni, Amissi Kalanda, et d'autres responsables, au moins 22 personnes ont été tuées entre samedi et dimanche. L'armée congolaise a tué 4 assaillants et récupéré 2 armes et une machette. Gabi Dorsi l'a joint à Beni, le journaliste Nikes Kibel Beloka.
Ils profitent des festivités pour attaquer, pour tuer. Donc, ils ont attaqué. Samedi, c'était 9 morts. Devant dimanche, une vingtaine de morts. Parce que, comme c'est la forêt, on ramasse, peut-être demain encore, on va ramasser d'autres, mais disons une vingtaine de morts.
Mais les FARDC opèrent quand même dans la zone.
Donc, la zone est bien militarisée. Il y a les troupes FARDC, du général de brigade Marcel Bangou. Les FARDC sont sur place, ils poursuivent l'ennemi.
Ceci dit, comment est la situation sécuritaire en général à Beni?
On a observé un calme relatif. Pendant presque un mois, il n'y a pas eu de massacre. Maintenant, ils reprennent sûrement parce que nous sommes pendant les fêtes. Bon, on ne le souhaite pas, mais je pense qu'ils continueront. Même au 31, au 1er janvier, ils continueront parce qu'ils doivent aussi survivre. Ils sont à la recherche de vivre parce que les militaires sont au fond.
Nikes Kibel Beloka, directeur du journal Les Coulisses à Beni en RDC.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Cameroun, un kamikaze a tué 2 civils en se faisant exploser dimanche à Mora, dans le nord du pays, zone d'opération du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Le gouverneur de la région, Midji Yawa Bakari, a expliqué à l'AFP comment s'est déroulé l'incident.
Le monsieur, ayant arboré maladroitement sa charge, a été aperçu par les membres du comité de vigilance qui l'ont sommé de soulever son habit pour contrôler son torse. Et immédiatement, il a compris qu'il était découvert. Il a été mis à nu. Donc, immédiatement, il a actionné sa charge. Au final, nous avons eu 3 morts, y compris le kamikaze, et 5 blessés. Donc, la vie est hors danger. Profitons également de cette occasion pour appeler les uns et les autres à plus de vigilance et savoir que nous sommes toujours en situation de guerre et que dans ces circonstances, rien ne devrait être négligé.
Le gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, Midji Yawa Bakari. On reste au Cameroun pour le bilan de l'année qui s'achève. L'année 2016 aura été pleine de rebondissements et marquée par une succession d'événements négatifs. De Yaoundé, le compte-rendu de notre correspondant Moki Idrine Kenzeka.
Les films de la période sombre commencent en mars lorsque les images d'une femme éventrée gisant dans un bain de sang à l'entrée de la maternité de l'hôpital La Quintinée de Douala font le tour des réseaux sociaux. En effet, Monique commentait qu'elle serait décédée avant de pouvoir donner naissance à ses jumeaux et sa sœur, croyant sauver le bébé, a procédé à une chirurgie dans des conditions précaires. C'est face à ces images sur Facebook et autres que plusieurs Camerounais ont exprimé leur indignation, accusant ainsi le personnel médical du dit hôpital de négligence. Des mois ont passé et on se serait cru à l'abri des événements tristes. Seulement le 21 octobre dernier, le Cameroun vivra un des événements les plus tragiques de son histoire, à savoir le déraillement du train de la société Cambrai près de la gare de Seika dans la région du centre. Le train en partance de la capitale Yaoundé pour la cité économique Douala avait fait 80 morts et plus de 600 blessés. Cependant, le chef de l'État, Paul Biya, avait mis sur pied une commission d'enquête que devait présider le premier ministre. Seulement, les résultats devant déterminer la cause de l'accident n'ont pas encore été rendus publics, ce qui rend perplexe l'opinion publique. Quelques semaines après, c'est au tour de la région de l'Est de vivre un drame plutôt inhabituel. Il s'agit du décès d'une trentaine de personnes après avoir consommé l'odontol, une boisson alcoolisée fabriquée localement. L'année rétrospective au Cameroun s'achève avec des vagues de grèves tenues dans les parties anglophones du pays. En effet, les avocats et enseignants d'expression anglaise sont descendus dans la rue pour protester contre l'influence prononcée du français dans les zones anglophones du pays. Par ailleurs, l'on peut évoquer un aspect positif dans la succession des événements au cours de cette année. Les attaques perpétrées par les groupes terroristes Boko Haram deviennent de moins en moins régulières, ce qui a entraîné la réouverture des frontières entre le Cameroun et le Nigeria après 3 ans de fermeture. Moki, Edwin Kinzeka, pour VOA Afrique, Yaoundé.
Soudan, les autorités soudanaises ont libéré 20 personnes incarcérées depuis novembre pour avoir appelé à des manifestations contre la hausse des prix de l'essence. C'est ce qu'ont annoncé ce lundi deux partis d'opposition. Et en Somalie, des combattants de l'organisation islamiste Al-Shabaab ont abattu dimanche un procureur militaire dans la région autonome du Puntland en Somalie. Proche-Orient.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Proche-Orient, le gouvernement israélien continue de faire des remontrances suite au vote du Conseil de sécurité vendredi sur la colonisation en territoire palestinien. Michel Joseph nous en dit plus.
Parmi les diplomates convoqués par le gouvernement israélien pour expliquer le vote de leur pays, figure le représentant de l'administration Obama. Pour la première fois depuis plus de 3 décennies, les États-Unis n'ont pas usé de leur vote de veto au Conseil pour bloquer le vote de la résolution proposée par la délégation égyptienne. Ce texte exhorte Israël à cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est, et affirme que les colonies n'ont pas de valeur juridique. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré hier soir l'ambassadeur Daniel Shapiro, 2 jours après l'adoption à l'ONU, grâce à l'abstention américaine de cette résolution défavorable à Israël. De son côté, le Sénégal a vivement réagi contre la décision d'Israël de rappeler son ambassadeur à Dakar et d'annuler son programme d'aide. Le porte-parole du gouvernement sénégalais, Sédou Gueye, a déclaré que la position de Dakar mérite d'être saluée et, de fait, la communauté internationale salue la position du Sénégal, notamment les pays musulmans, a affirmé M. Gueye sur la télévision publique.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.